Chambertin, profiterole au chocolat, flan au fromage.
Tout rouge metteld, tout rouge kifré, nougat crème, töltött krumplé, pécsi szalád, szürke linzer, barna linzer.
Le goût du monde.
Croquette de pommes de terre, loose confect.
Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. Une question que l'on se pose souvent ici et que nous avions envie de partager et d'échanger avec vous aujourd'hui. Peut-on retrouver le goût de ce qui n'est plus ? Le goût d'avant les grands bouleversements, tisser des ponts entre l'avant et l'après, retrouver les sensations de la veille ? La cuisine le permet-elle d'échapper à la temporalité et peut-être aussi d'en créer une nouvelle ? Bonjour Ryoko Sekiguchi.
Bonjour.
Je crois que ce sont des questions qui se trouvent, qui parcourent en filigrane votre travail et vos livres, en tout cas tels que je les lis.
Oui.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivain, poète, traductrice japonaise. Je le précise car vos multicultures vous donnent à voir autrement. Et évidemment, on va en parler aujourd'hui. Vous avez publié au printemps dernier 961 heures Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent chez POL. C'est un livre d'essence, une découverte de la ville de Beyrouth, un projet de la Maison des Écrivains à travers sa cuisine. En tout cas, c'est tel que vous l'avez, vous, imaginé ce projet, puisque la Maison des Écrivains vous a demandé d'écrire un livre au sujet de Beyrouth.
Voilà, tout à fait.
Mais vous avez choisi la cuisine. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ?
Alors d'abord, en fait, c'était même une des raisons pour laquelle j'ai accepté de séjourner à Beyrouth, parce que, bon, je savais que Connie mange bien. Et puis aussi, en même temps, je sais toujours pertinemment que la cuisine, c'est un excellent outil et un livre pour lire, soit... Donc ça peut être donc une ville, c'était le cas. Et ça peut être une personne aussi. Par la cuisine, on peut lire une personnalité. Ça peut être une communauté, ça peut être une religion. Donc une différente lecture est possible. Donc je pensais que avec ce que j'ai comme expérience de travailler sur le goût, je pourrais faire. Bien que tout à fait débutante pour Beyrouth, écrire quelque chose qui n'a peut-être pas encore été écrit.
En tout cas, je crois que la réaction aussi à votre angle de vue pour Beyrouth, à savoir la cuisine, a été saluée par des sourires. Parce que pour une fois, vous ne proposiez pas de parler de Beyrouth au travers de la guerre, mais au travers de la vie.
Voilà, oui. Non, mais c'est vrai que autant, par exemple, à Paris ou bien à Tokyo, on peut parler de plein d'autres choses que la guerre. Bon, bien sûr, enfin, et à Paris et à Tokyo, on connaît la guerre, mais ça n'empêche pas de parler de l'architecture, de la culture, de l'art, de la musique, plein d'autres choses. Alors qu'il y a certaines villes qui sont comme ça, qui gardent le stigma. Et même ceux qui y vont se sentent obligés de parler toujours de drames. Alors que les gens continuent à vivre. Les gens continuent à vivre comme nous et continuent à manger.
Qu'est-ce que vous apporte justement cet angle qui sera un peu décalé par rapport à toute autre approche qu'on peut avoir d'une ville ? Dire je vais découvrir la cuisine, puis vous avez 321 plats qui les accompagnent, ça veut dire que vous êtes nourri physiquement, concrètement,
oui,
de
oui,
cette
oui,
ville
oui.
et de sa nourriture. Donc vous êtes imprégné complètement. Mmh. En quoi la cuisine vous permet-elle d'accéder peut-être à des domaines ou à des sphères qui ne seraient peut-être pas abordées si ce n'était pas de cuisine dont il s'agissait ?
Alors, ce qui vient de cuisine, c'est qu'on peut, disons, mélanger et synthétiser plusieurs disciplines. Par exemple, pour aborder une ville, une approche sociologique est possible. Et, or, avec la cuisine, on peut aussi faire cette lecture sociologique. La lecture anthropologique est possible, bien sûr. Et puis, bon, bien sûr, avec l'historique, culturel, il y a plein d'angles que qu'on peut justement cuisiner, mitonner dans un plat. Et c'est ça, je pense, qui me passionne profondément pour ce qu'on peut faire comme lecture à travers d'un plat.
Une lecture, c'est vraiment une lecture. Et c'est une lecture sensorielle également, parce que vous avez tous les sens qui sont en éveil quand vous découvrez un plat.
Bien sûr, quand je dis une lecture, ce n'est pas un acte passif. Et aussi, comme vous avez dit, ça peut être En fait, c'est mutuel, c'est-à-dire que à la fois je dis, mais à la fois je mange. Donc la nourriture fait partie de moi désormais. Donc là, il y a une sorte de va-et-vient. Mais c'est aussi pour ça que je dis encore. Enfin, j'insiste de dire la lecture, parce que la lecture, contrairement à ce qu'on pense, n'est jamais passive et n'est jamais en sens unique. Il y a des dialogues avec ce qui est déjà écrit, avec les parfois les auteurs, parfois vivants ou morts. Et c'est en ce sens-là que je dis que c'est la lecture.
Votre livre, il a été écrit en plusieurs temps. Parce que vous vous êtes rendu à Beyrouth pour l'écrire en 2018.
Oui.
Ensuite, il y a eu la révolution, fin 2019, puis l'explosion du 4 août 2020. Donc ce livre, il jalonne ces temps-là. Et après l'explosion, justement, vous êtes posé la question, le livre n'était pas encore paru, publié, vous êtes posé la question de que devient mon manuscrit, que devient mon texte. Et c'est en cela que vous avez su que oui, c'était bien un livre de cuisine que vous avez écrit. Pourquoi ?
Oui, tout à fait. Quand vous dites 3 temps, c'est la réalité qui a fait que c'était 3 temps. Mais pour n'importe quelle écriture du livre, le temps continue en temps normal, en temps de paix. Mais dès que qu'il y a un drame, une catastrophe qui tombe dessus, donc il y a, comme le cas de pandémie, avant et après, et on doit vivre justement en... C'était le cas de l'écriture de ce livre. On a l'impression qu'on vit en 3 temps. Et c'est vrai que, après l'explosion, je me suis posé la question justement de savoir si je publie ou non, parce que, à côté de catastrophe, le thème de cuisine que je traite me paraissait bien sûr bien insignifiant, peut-être trop nonchalant. Bon, il y a un épisode qui m'a fait décider de publier, qui est écrit, en fait, au début du livre, donc je passe, mais là, ici, en fait, je vais répondre. C'est finalement une question qu'on doit se poser tout le temps. Tout le temps. Est-ce que j'ai le droit d'écrire ? Bien sûr, c'est quelque chose qui se passe surtout après la catastrophe. Mais par exemple, quand on écrit un roman, par exemple, c'est la question, le cœur de question de, par exemple, le Me Too. Quand on écrit sur une fille avec laquelle on a eu un rapport intime, est-ce que j'ai le droit de décrire ? Avec intime, non, avec tout le monde. C'est vrai que c'était une très très bonne leçon. C'est-à-dire que pour n'importe quel livre, il faut qu'on se pose la question.
Quelle légitimité j'ai pour écrire à ce moment-là?
Et qu'est-ce qu'on peut sauver aussi d'oubli?
Et c'est justement Nadine, une de vos amies de la Maison des Écrivains, qui vous a dit « Heureusement que ce livre va exister. » Parce que vous, Ryoko, vous avez connu Beyrouth et dégusté, savouré, rencontré Beyrouth avant.
Oui.
Le 4 août.
Oui. Et tout le monde me dit que c'était la dernière période d'insouciance de Beyrouth. Et à l'époque, bien sûr, non seulement moi, mais ni les Beyrouthins ne savaient pas que c'était le dernier moment. Et c'est toujours comme ça, le dernier moment. On sait jamais que c'est le dernier moment. C'est juste comme, avant la pandémie, justement, 2020, janvier, personne ne savait que c'était avant quelque chose.
Avant un confinement, avant un autre temps, avant la veille, avant toujours, on ne sait pas. Et cette inconscience de l'avant, justement, met toute sa valeur a posteriori. Également, vous écrivez également que un livre de cuisine, après tout, du coup, ce sont les questions que vous posez. Et je pose ces questions aujourd'hui parce que le livre de cuisine participe de la transmission. Vous dites que c'est un concentré des goûts d'une époque, une mémoire intime ou familiale. Et si l'on veut bien réaliser quelques plats qui s'y trouvent, c'est l'archive des 5 sens d'une époque. On est vraiment dans quelque chose quasiment d'intemporel, où on se dit, en fonction des plats que vous avez goûtés, que vous avez appris peut-être à cuisiner, peut-être qu'on peut goûter Beyrouth le 3 août 2020.
J'espère, et je pense que c'est en cela que le livre de cuisine et le livre littéraire se joignent. J'ai dit tout à l'heure qu'à la fois, l'écriture peut assassiner une personne, symboliquement, mais aussi pour sauver d'oubli d'une histoire qui a été enfouie. Et en fait, c'est toujours double tranchant. Et le livre de cuisine est comme certains livres littéraires pour sauver quelque chose de l'oubli et ou bien pour conserver quelque chose.
Est-ce que vous pensez, vous qui êtes écrivain et donc qui jouez avec les mots aussi, que cette traduction de moments permet vraiment une pérennité, peut vraiment passer et instaurer un pont entre l'avant et l'après? Est-ce que c'est possible?
Pérennité n'est pas le mot. Parce que c'est, moi, je le conçois comme une, vous savez, une petite vendeuse d'allumettes. Donc le temps de lecture, il y a le plat qui apparaît. Il y a le moment de bonheur qui apparaît. Mais après, la flamme ne dure pas. Mais après, c'est à nous. En fait, chaque fois, le temps d'une allumette, quelque chose apparaît. Et quelque chose, quand même, d'éphémère est transmise.
Il y a évidemment la Madeleine de Proust, qui est l'un des premiers modèles, peut-être, de cette idée du goût transmis. Chacun s'approprie ensuite sa Madeleine de Proust. C'est devenu un exercice et un jeu, en fait, entre les gens. Il y a une autre personne qui était obsédée par cette transmission et surtout par une obsession de la disparition. C'est Christian Boltanski, l'artiste plasticien. Qu'est-ce qui reste d'une civilisation, d'une époque, de nous?
Pour moi, c'est l'idée d'abord de la possibilité de la transmission dans différentes cultures. Je pense que notre esprit est fait par tous ceux qui nous ont précédés. En tout cas, je suis persuadé que j'ai une connaissance que je n'ai pas apprise, mais qui m'est donnée par mes ancêtres. Je crois effectivement que la cuisine est peut-être la dernière chose qui se transmet. On se souvient presque tous d'un plat que faisait notre grand-mère. Et je trouve ça très très beau quand des gens disent une recette. Et quand on discute des variantes sur une recette. Non, il faut pas mettre le sel d'abord, il faut mettre d'abord le poivre et le sel, on le remet après. Et chacun rejoue cette scène, et qui est sans doute une scène liée à l'enfance, et qui est donnée par la transmission, le botch. Alors là, il y a du vinaigre, il y a du chou. Alors ma grand-mère allait chez le pharmacien chercher une sorte d'acide mystérieux qu'elle mettait dans la soupe. Mais ça s'est perdu.
Christian Boltanski, c'était sur France Inter dans le Grand Atelier. Vous y étiez d'ailleurs, Yoko Sekiguchi, un échange entre vous deux. Cette notion de transmission, elle est essentielle pour vous également, telle que vous l'avez vécue également à Beyrouth, dans la manière dont elle s'opère.
Je pense que la transmission devient bien sûr vitale lorsque la disparition est imminente. Et je pense que Christian Boltanski, surtout par exemple à la fin de sa vie, était vraiment, tous les intérêts de ces pièces tournaient autour de transmission, parce que c'est la seule chose qui nous permet de survivre après la mort. Et c'est la seule chose qui permet les autres morts de survivre. Donc quand il parle d'une recette, chaque fois qu'on refait un plat, par exemple, de notre grand-mère qui est déjà décédée, peu importe si le goût n'est pas tout à fait pareil. Parce qu'on dira toujours, ah oui, non, mais c'est pas tout à fait ça. Mais c'est pas grave. Le moment, encore une fois, comme il a dit, alors on met le sel d'abord, et bien après, on refait les gestes de sa grand-mère, et cette femme réapparaît, non devant nous comme un fantôme, mais avec nos mains, c'est nos mains qui deviennent notre grand-mère. Et je pense que plus, par exemple, qu'on est attaché à une grand-mère, plus la transmission devient vitale. Je pense que pour Beyrouth, c'était pareil, parce que je pense que si j'évoque autant le thème de transmission dans ce livre sur Beyrouth, c'est que pour les Beyrouthins, la transmission était un thème mais vraiment crucial, parce qu'ils étaient toujours face à la disparition, c'est-à-dire à la disparition de mémoire de ville, de mémoire des gens aussi, de mémoire d'histoire collective. Et je pense que c'est cela que j'ai senti surtout, et c'est cela que je voulais, en tant qu'écrivain, transmettre. Non, je ne suis pas libanaise, mais il y a des choses que je peux transmettre par le moyen des mots.
Le fait de ne pas être libanaise, justement, vous a permis d'avoir une liberté que vous n'auriez peut-être pas eue ailleurs.
Peut-être, j'espère. Et c'est vrai que c'est une ville multiconfessionnelle, multiethnique, et il y a des tabous. Par exemple, je pense que chacun reconnaîtra que dans la famille, il y a plus de tabous. Il y a des choses qu'on peut dire plus facilement à un simple ami qu'un ami intime. Et si c'est son propre père, donc encore moins. Et donc, bien sûr, j'ai pu constater ou bien imaginer, supposer qu'il y a des choses qu'un Libanais ou une Libanaise ne dira pas à quelqu'un de même confession, ou bien de même quartier, mais qui pourra dire à une étrangère.
Le goût du monde, Clémence de Navy.
Alkindi sur RFI, bienvenue.
C'est beau comme titre.
C'est beau, n'est-ce pas, Nuages de Lune. Je me suis dit, pour quelqu'un qui a écrit sur la saveur et les recettes de nuages, nous nous sommes dit, c'est indiqué. Vous écoutez Le Goût du Monde, bien sûr, nous sommes avec Ryoko Sekiguchi, l'écrivain poète japonaise, et nous parlons de transmission après l'écriture de ce livre, donc Beyrouth, avec un portrait. Je dis sensoriel parce que on a eu une approche pour l'instant très, très sage de la transmission, mais dans ce livre, on a et les goûts et les parfums et les couleurs et la vie. La vie sourdoie clairement des pages de ce livre. Pour Alkindi, c'est vous qui avez choisi ?
Oui, alors, parce que comme on est donc censé parler de la transmission, bon, bien sûr, c'est un ensemble que j'aime beaucoup, mais que bien que ce soit un ensemble de la musique traditionnelle, il a été dirigé par Julien Weiss, un occidental, donc c'est... En fait, si j'ai parlé de transmission dans ce livre sur Beyrouth, je voulais surtout parler de transmission par ricochet. C'est que, parce que souvent, on a tendance à penser que c'est enfin, mère et fils, enfin, je sais pas, en famille, en communauté, enfin,
très
voilà.
Très sérieux, très
matérié. Voilà, très fermé, enfin. Mais finalement, par exemple, un occidental peut incarner le l'âme de la musique traditionnelle, comme vous avez invité un jour, enfin Maurice Sacco, un Français d'origine sénégalo-malienne, peut
passionné de Japon.
Oui, et pour traduire le l'été japonais en un plat, je pense que surtout les hommes ont cette intelligence de communication. Et je pense que c'est aussi pour ça que nous, les écrivains, écrivent. Parce que, enfin, si j'écris en français, mais c'est pas juste parce que ça soit lu par les Français, mais aussi par beaucoup de monde. La communication est possible, la transmission est possible en dehors de toutes ces catégories, tous ces croisements.
Voilà. C'est mélange. Voilà. C'est cloisonnement. Comment transmet-on, justement, vous avez transmis avec les mots, mais comment est-ce que l'on transmettait vers vous, les Béroutins? Comment ont-ils transmis quand ils vous parlaient?
Ah, il y a plusieurs choses. Comme vous avez dit, bon, enfin, d'abord, souvent, par l'histoire, les Béroutins sont venus me voir parce que qu'il y avait quelques articles parus dans les journaux locaux, comme quoi il y a une Japonaise, voilà, qui est à la recherche d'une histoire de cuisine. Et chose étonnante, les gens sont venus, donc des inconnus, en disant que, alors, j'ai une histoire à vous raconter. Et souvent, c'était une histoire, mais je pense qu'il était très importante pour eux, et à la fois très émouvante, qui est en rapport avec la guerre, mais qui peut être parfois comique, en fait, une sorte de tragicomédie. Et bon, il y avait ça aussi, il y avait les gestes, parce que pour faire le kébé, on doit faire certains gestes, donc on doit imiter. Enfin, c'est difficile à reproduire ici à la radio.
On peut le décrire parce que c'est un geste qu'on connaît.
Oui, et
c'est une sorte de boule, on va dire,
une sorte de boule,
ballon un peu ovale,
et dans lequel on essaie de creuser et de faire un trou, comme si on fait une sorte de jarre entre deux mains. Et par exemple, il y a ça, mais il y a aussi les feuilles de vigne farcies, mais qu'on roule, mais très très finement, presque comme un crayon. Et aussi, beaucoup d'odeurs, des plats qu'on cuisine, mais aussi mêlés des odeurs de la ville, les bonnes odeurs, bien sûr, de jasmin, de magnolia, de bougainvillea et tout ça, mais de mauvaises odeurs aussi, de plus belles non ramassées. Ça raconte aussi quelque chose de la ville. Donc, en fait, finalement, ce livre, c'est vrai, ne parle pas seulement de transmission, mais aussi les odeurs sont transmises, finalement. Il y a pas mal de transcriptions d'odeurs. C'est vrai que j'ai essayé de lire la ville à travers les plats, mais les odeurs font partie de la ville.
Ils font partie des plats aussi, quelque part.
Ah bah oui, les deux sont inséparables.
Intimement liés. La cuisine inséparable aussi des souvenirs les plus douloureux, parce que quand ils vous racontaient certaines de leurs évocations de cuisine, souvent il y avait la guerre, vous venez de le dire. Ce sont des événements douloureux, très intimes, qui se mêlent à des histoires qui le sont, enfin, d'apparence un peu moins. C'est le cas également de Sabia Essabi. C'est une jeune femme afghane que j'ai rencontrée à Lyon, qui est chef traiteur cuisinier, dont l'établissement s'appelle Kabulion, donc originaire de Kaboul en Afghanistan. Quand je l'ai rencontrée il y a 4 ans, évidemment, elle espérait le retour de la paix dans son pays, mais elle s'employait déjà à transmettre, elle aussi, la cuisine afghane.
La cuisine afghane, moi, je trouve que c'est un mélange de tas de saveurs, des envahisseurs. Les Anglais sont passés, les Grecs sont passés. Ça, on est envahis par les Russes. Ils ont laissé une petite empreinte culinaire, bien sûr aussi, de chaque truc. Je m'en suis aperçue qu'au fait, quand j'ai cuisiné avec Alain Alexanian, chef arménien, eh ben, eux, ils font des trucs qui s'appellent les manti. Nous, on les appelle des mantous. En Russie aussi, il y a comme les mantous. Mais alors, est-ce qu'on les fait les farces de la même manière? J'en sais rien. Et le chaud, le froid. En Turquie, en Grèce, on fait le sauce au yaourt. Et bien en Afghanistan aussi. Ça, je vais le laisser mijoter parce qu'il faut... En Afghanistan, ma mère, elle me disait toujours, quand ça cuit comme ça, il faut que ça se sépare. Quand ça s'est séparé un peu le gras, ça veut dire qu'il est bien, bien mijoté, bien cuit et que c'est bon. J'ai dit ok. Je l'aurais appris alors à ma fille, la grande, oui. Parce que je lui ai parlé en anglais, en perse, en français, tout ce qu'on veut. Je lui ai bien appris.
Vous lui donnez toutes les armes pour pouvoir grandir seule si jamais elle a besoin.
Oui. C'est tout simplement, c'est que je me dis, moi j'ai perdu mes parents très tôt. Et que si je meurs, bah, qui va parler de moi et d'Afghanistan, en fait ? Personne. Et pourtant, mes enfants, ils ont une part de là-bas.
Est-ce que c'est pas l'une des meilleures transmissions aussi de la cuisine que celle-ci, dont nous parlait Sabia ?
Ah, bien sûr. Mais vous savez, mais en même temps, en l'écoutant, j'avais certains plats que j'ai mangés justement en Afghanistan qui sont revenus, mais vraiment là, j'ai le goût de chou-fleur, par exemple mijoté, enfin dans la sauce, enfin dans la soupe sauce tomate en bouche là maintenant. Et c'est vrai que bien sûr on peut transmettre justement à sa propre fille, mais on peut transmettre à n'importe qui, à notre chef et notre chef, et c'est comme ça que on peut emporter avec soi un plat. Peu importe la nationalité, peu importe. Bon, bien sûr, quoi. Si c'est quelqu'un avec lequel on a une relation intime, bien sûr, on a plus envie de partager, de transmettre. Mais je pense que, à la fois, je suis optimiste et pessimiste. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que le monde va devenir. Et je pense que on peut transmettre à n'importe qui. Et comme ça, il y a moins de risques de disparition complète. Je pense aussi, c'est aussi parce que après Fukushima, j'avais très très peur. Donc l'accident de la centrale nucléaire, j'avais très peur que toute la tradition culinaire japonaise disparaisse. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, il suffit pas d'être au Japon. Il suffit pas d'avoir la recette pour le faire, parce que de toute façon, on peut pas le faire, parce que enfin, tout est contaminé. Ce n'est pas le cas, mais enfin, j'avais eu très très peur au moment de l'explosion, enfin, d'éventuel risque de l'explosion. Et dans ce cas-là, mieux vaut avoir, par exemple, une petite fabrique en Bretagne qui va faire la même chose, la bonite séchée, que ce qu'on fait, enfin, dans un village japonais. Je pense que c'est dans ce sens-là que je dis que la transmission soit faite par quelqu'un qui habite loin, qui n'a rien à voir avec la culture qu'on a. Ça peut être une bonne solution pour sauver de la disparition.
D'ailleurs, c'est ce que vous avez constaté lors de votre séjour à Beyrouth, que cette cuisine libanaise était préservée tout en vivant à l'extérieur, puisque de toute façon, elle vit à l'extérieur du Liban, elle revient, elle reste, elle est suffisamment forte, elle n'est pas en danger de disparition. En tout cas, c'est l'impression que l'on a quand on vous lit. Il y a notamment l'histoire du Kébé dont vous avez parlé tout à l'heure. Je vous propose d'écouter Zeyna Abeyrachet, qui est donc dessinatrice, qui elle aussi s'était posée cette question là. Au lendemain de l'explosion, elle avait dessiné dans le journal L'Orient le Jour, donc ces silos, avec au pied des silos détruits, du blé, qui était vraiment synonyme d'espoir pour elle. Et elle nous avait raconté, à ce moment-là, comment le Kébé avait voyagé, comment cette transmission s'opérait dans les deux temps, en avant et en arrière.
J'étais à Cayenne il y a 5 ou 6 ans, pour une rencontre en bibliothèque, suivie d'une dédicace. Et puis un couple adorable est venu me parler au moment de la dédicace pour m'inviter à déjeuner le lendemain, me disant en deux mots que l'arrière-grand-père de la dame était libanais et qu'il était venu s'installer à Cayenne il y a très très longtemps. Et donc je suis arrivée chez eux le lendemain, donc il y avait 4 générations qui étaient présentes, bon, donc l'arrière-grand-mère, la grand-mère, le couple en question et leurs enfants. Et c'était incroyable parce qu'on était à Cayenne et j'avais l'impression d'être dans un intérieur beyrouthin, mais du siècle dernier. C'était un salon arabe avec des tapis, puis des coussins au sol, et au mur étaient accrochées des cartes postales agrandies de Beyrouth, mais du Beyrouth des années 50, donc c'est une ville qui n'existe plus aujourd'hui. Et voilà, c'était leur intérieur. Et quelle ne fut ma surprise quand on est passé à table. Ils avaient préparé de la kébé. Et ces gens-là n'avaient jamais mis les pieds au Liban. Ils ne parlaient plus l'arabe depuis la génération de l'arrière-grand-mère. Et pourtant, ils préparaient encore la kébé. Ils préparent encore la kébé.
Ils préparent encore la kébé.
Ah, Est-ce que je peux vous raconter une histoire? C'est incroyable, comme quoi une histoire rappelle une histoire que j'aurais dû mettre peut-être dans ce livre. C'est l'histoire des Japonais, de descendants, en fait, de quatrième, cinquième génération, des descendants, des immigrés en Nouvelle-Calédonie. Donc, je suis allée, et puis, il y avait la deuxième génération, donc, qui était, très, très vieille, une dame. Je voulais qu'elle me raconte une histoire. Et puis, elle a dit, j'ai vu dans les ports, le bateau arrivait, mon père est allé, et puis il y avait les poissons konosilo, et comme ça, en faisant comme ça, on a préparé les sushis de konosilo. Konosilo, c'est un poisson. Et je me souviens de cette main de la dame qui danse en parlant de ça. Et sa fille, qui était troisième génération, était étonnée parce que elle ne lui a pas jamais raconté cette histoire. Et peut-être, donc, étrangère que je suis, à rappeler, parce que je lui ai parlé tout le temps en japonais. Troisième génération, cette femme ne parlait pas en japonais. Elle a rappelé une histoire enfouie. Et après, en fait, cette dame a perdu un peu la mémoire, et après elle est décédée. En fait, finalement, c'était seulement à ce moment-là qu'est apparu ce poisson, son papa, et le plat que sa main dansant a fait. On est des témoins.
Absolument, on fait partie d'une chaîne.
Oui.
Hein, avoir conscience, cette conscience-là, en fait, de faire partie d'une chaîne qui s'égrène au fil du temps.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Blowing in the Wind, Bob Dylan sur RFI. Vous nous rejoignez, bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde. Quelle mémoire des goûts? Quelle place pour cette mémoire dans la transmission? Peut-on voyager dans le temps grâce au goût? Moi j'aimerais bien ça.
Oh, bah oui.
Peuvent-ils préserver, absorber un moment du passé? Histoire de transmission, de main tendue aussi et de gestes avec Ryoko Sekiguchi, auteur chez POL du très beau livre 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent. Disons que nous faisions partie d'une chaîne, et cette cuisine, j'ai regardé évidemment toutes les émissions que nous avons pu faire dans le bout du monde, la transmission elle est partout. Elle est partout, le souvenir aussi, évidemment. On s'est amusé aussi de voir que cette cuisine était aussi remplie de mondes passés, mais qui réapparaissent dans les cuisines des uns des autres. À cette cuisine que vous appelez la cuisine des absents. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que c'est que la cuisine des absents? Sinon, je peux lire aussi.
Oui, J'aimerais bien que vous lisiez un peu une petite lecture, allez.
Une petite lecture, La cuisine des absences. Cela me rappelle un restaurant de cuisine juive où je suis allée en Tunisie. Ces plats juifs partageaient beaucoup de points communs avec ceux des Arabes tunisiens, témoins de la cohabitation et des influences mutuelles entre ces confessions. La cuisine andalouse trouve son origine dans la cuisine d'Al-Andalus, comme l'indiquent les noms de certains plats et ingrédients, aloubia, haricots secs en espagnol, du mot arabe aloubia, ou albondiga, boulette en espagnol, de l'arabe albunduga. Les goûts et les plats des absents dans une culture culinaire. Moi, je vous propose d'aller goûter un petit peu de moulouria dans un restaurant tunisien qui partage évidemment cette spécialité avec bien des pays dont nous allons parler, avec Jessie Lévy.
On a tenté en plat du jour un couscous, et puis on a vu tout de suite l'engouement. Et puis après, on a tenté des trucs bien plus compliqués, de la moulouria par exemple, c'est un plat quand même très particulier. Ça sent la marijuana, ça ressemble à du goudron, enfin c'est un peu chelou. Mais finalement, c'est incroyable, je vois des gens qui se régalent avec la moulouria, mais moi, je commence à m'y faire. Et mon chef est tunisien de Tataouine, il a appris la cuisine avec ma grand-mère il y a 20 ans, dans un premier fast-food que mon père avait ouvert. Alors c'était pas un restaurant tunisien, c'était un fast-food, genre ça s'appelait Berge Beige Burger, c'était vraiment un McDo cachère. Et il a appris avec ma grand-mère plein de choses, et ce qui est incroyable c'est que ma grand-mère n'est plus de ce monde, mais il a vraiment sa main quoi. C'est mon chef en fait qui m'a dit amène-moi la moulouria, amène-moi ci, amène-moi ça, et moi j'en fais ma sauce, et finalement ça a marché tout de suite, c'est ça qui est vraiment incroyable.
Et cette moulouria est largement partagée puisqu'on va la retrouver au Liban, on va la retrouver donc évidemment en Tunisie, je crois qu'on la retrouve également au Japon.
Oui. Alors depuis les années 80, parce qu'on a commencé à d'abord importer du pont, et ensuite à cultiver. C'était mon légume préféré, enfin un de mes légumes préférés en été, parce que c'est l'été, la saison de moulouria, fraîche. Et moi, je ne savais pas comment on cuisinait en fait dans ces pays. Et donc avec ma mère, on le blanchissait juste comme ça, légèrement, et puis comme de l'épinard, et ensuite avec un filet de sauce soja, un peu de katsu aussi, bonite ceci, c'est-à-dire, et ça fait un plat tout frais, estival. Et ça, je suis nostalgique de ce plat parce qu'on ne trouve pas de moloheia, donc à la prononciation à la japonaise, ici, fraîche. Donc j'aimerais bien qu'un producteur, si vous m'entendez, donc essaye de. Non, mais c'est vrai, de cultiver le moulouria, en Île-de-France, ou bien, enfin, en France, enfin, voilà.
Donc, avis à bon entendeur, salut. Voilà. Et la moulouria, ou comment l'appelle-t-on au Liban, cette moulouria? Moulouria également?
Moulouria également.
Et comment l'avez-vous goûté, cette moulouria?
Alors, c'est une sorte de ragoût, entre ragoût et soupe, avec d'autres herbes. Et comme coriandre et un peu de d'oignon et puis le poulet. Et ce qui est drôle, c'est que comme on a entendu, donc il a dit, enfin c'est un truc un peu particulier. Tout le monde pense que c'est un truc particulier. C'est-à-dire que ça nous appartient. Donc c'est bon, peut-être pour vous extérieur, ça vous paraîtrait un peu particulier. Et donc chacun a cette recette, sa recette. Chacun pense que elle est la meilleure, bien sûr. Et un jour, je suis tombée sur la lecture donc de quelqu'un qui n'a pas du tout aimé ce livre, donc sur le site, et qui disait. Et surtout, la recette de moulouria, un Libanais se moquerait de ça, alors que c'était une recette qui m'a été donnée par une Libanaise. Comme quoi, mais c'était dit, il faut que ça soit toujours moulouria qui est objet de critique. C'est drôle. C'est-à-dire que combien on a un attachement à ce légume.
Et c'est un plat dans lequel on se retrouve, qui est commun à bien des confessions, à bien des peuples qui ont pu vivre ensemble à un moment dans l'histoire, dans le même pays. C'est intéressant de voir combien c'est un plat de mémoire, un nom, un goût, et c'est tout un monde qui réapparaît. Cette histoire-là aussi se transmet presque à notre insu.
Allô ?
Ouais, Nana, c'est Jo.
Oui, chérie.
Ça va ?
Oui, très bien. Ouais.
Je voulais savoir si je pouvais venir la semaine prochaine pour filmer la moulouria.
Oui.
Pour pouvoir le refaire après.
D'accord, tu veux venir déjeuner?
Bah, avec
je te
plaisir.
Fais une tranche de foie.
Ouais, je veux bien.
Et quoi à côté, mon amour?
Nano, la grand-mère de Jonas Pariente, a fui l'Égypte en 56. Son petit-fils, Jonas, réalisateur, a filmé Nano, lui transmettre cette recette, le premier film du projet Grand Mass Project.
L'envie de partager, l'envie de recevoir, l'envie d'être tous autour de la table, de se retrouver en mangeant, de se retrouver en vivant. Rien d'autre en commun que cet amour et cette envie de réunir. Il y a sûrement une question d'identité. C'est de la cuisine et une nourriture qui a beaucoup d'identité parce que justement, elle vient incarner beaucoup de choses qui sont plus que simplement faire à manger ou faire une recette. J'ai l'impression que ça porte et transporte des choses beaucoup plus immatérielles et beaucoup plus profondes et énergétiques, disons. Et à mon sens, comme globalement, on est en quête de sens et d'identité, on ressent probablement ça dans la cuisine qui se transmet dans les familles ou dans la cuisine juive. Et moi, ce déclic-là m'est venu plutôt dans le cadre de Grand Mass Project. Mais c'était quand même mu par le fait que le jour où ma grand-mère égyptienne sera plus là, qu'est-ce qui restera de ces recettes? Comment je pourrais les transmettre à mon tour et que mes enfants les connaissent si j'apprends pas à les faire? Et donc, j'ai aussi du coup mis la main à la pâte et appris à faire certaines de ces recettes. Et toutes les recettes égyptiennes ou israélo-libano-syriennes, tout ce type de cuisine, ils l'associent directement à ma grand-mère, donc leur arrière-grand-mère. Et puis, elle a quelques classiques qui leur sont destinés directement à eux. Elle a sauté deux générations, maintenant, ça ne va plus que vers les arrière-petits-enfants. Que ça soit des pâtisseries, des ménénas, des borekas salés, enfin, il y a toute une variété de choses qu'elle leur fait. Et ils savent très bien que c'est la cuisine égyptienne de Nano, quoi.
Je pense que c'est aussi pour ça que c'est parfois le mémoire collectif reste dans une recette, parfois dans un goût, parfois dans la présence d'un légume, par exemple, qui a été apporté par une autre contrée, et parfois par une langue, par un mot, comme c'était le cas de l'époque d'Al-Andalus. Le goût, maintenant, est difficile de reproduire, mais le mot reste, et c'est ce mot-là qui est comme une sorte de fantôme, témoigne la présence de quelqu'un, et c'est ça qui est extraordinaire.
Vous avez parlé à l'instant, Ryoko, de transmission et de mots ou de cuisine habitée, quelque part. Et il y a également dans la cuisine libanaise, et dans certains plats, mais pas seulement au Liban, des traces de doigts qui sont laissées dans le kébé, dans la kébé dont on a parlé tout à l'heure. Mmh. Et ces traces de doigts qui sont vraiment le signe que vous avez vu sur une poterie, sur une jarre, qui vous a rappelé donc la trace et le creux de la kébé. Mais vous avez vu un autre plat, qui est pour le coup arménien, que vous avez découvert à Beyrouth et dont vous dites qu'il vous le bouleverse à chaque fois.
Ah oui.
C'est une diaspora. Voilà. Comment le prononce-t-on déjà?
Pospof kefté,
c'est ça. Il se compose donc de pois cassés, soit de lentilles rouges, d'oignons, de boulgour, de persil et d'assaisonnement. On prépare une sorte de pâte en malaxant tous les ingrédients et on confectionne les keftés en refermant un morceau de pâte dans la main, une forme ovale avec la trace des doigts qui crée un motif ondulé. C'est une sorte de gros doigt, né des doigts. Le tchik kefté tartare arménien se prépare de la même façon. Les doigts blancs du fospof kefté et les doigts rouges du tchik kefté, vous dites, c'est sans doute le plus archaïque, la plus essentielle des formes qu'un être peut laisser pour nourrir les autres.
Ah oui, ça me rappelle toujours des peintures rupestres, les traces de mains par exemple, et aussi c'est vrai qu'il n'y a pas, c'est pas sans raison quand je parle après l'histoire de ma grand-mère avec le boulette de riz, parce que le boulette de riz on peut pas faire ça à la machine, donc on fait ça avec nos deux mains, et je pense que c'est aussi pour ça que pendant les confinements on faisait les pains on a besoin de nos mains, on a besoin de malaxer, on a besoin de gnocchi, c'est pareil. Je pense que c'est aussi pour ça que, pour ce genre de plat, on a un tel attachement et qu'on aime bien manger ça, qui est quelque chose qui, il y a la trace des mains.
Comme si la main ajoutait un petit peu à cette transmission.
Et de la présence des gens.
Il y a des aides également aux gestes qui transmettent, c'est-à-dire des ustensiles. Donc avant que vous nous révéliez
l'ustensile... Ah, c'est une sorte d'extension des mains, bien
absolument.
Sûr.
Absolument. Je vous propose d'écouter le son d'un ustensile très cher à Florence Kahn, qui est ashkénaze, dans le Marais à Paris, et qui était venue pour nous parler de la cuisine juive. Son ustensile, c'est le hachoir.
C'est le hachoir à poisson de ma maman. Alors c'est vraiment un ustensile très particulier. D'abord, il est extrêmement lourd, il est fait en fonte d'aluminium avec une petite poignée en bois. Il y a comme un entonnoir et on met le filet de poisson dans cet entonnoir. Il rencontre une vis sans fin qui est actionnée grâce à la manivelle. Et donc, voilà, vous entendez ce bruit ?
J'entends le bruit.
De l'autre côté de la manivelle, on a cette passoire, si vous voulez, qui va déterminer quelle sera la grosseur de ce qu'on va hacher. Et donc, maman faisait ça les veilles de fête pour faire le gefilte fish. Donc, elle mettait ce poisson. Et alors, j'adorais ce qui sortait comme ça. Ça tombe dans un plat, c'est rigolo. J'aimais bien voir ça. Et c'est une manière de hacher qui fait que on ne chauffe pas les ingrédients. Ils sont hachés tout en douceur.
Et cette cuisine doit toujours être vivante et en mouvement. Elle doit s'adapter parce que ce hachoir que Florence avait de sa mère n'existe peut-être plus aujourd'hui. Donc on ne retrouvera pas ce gefilte fish haché de la même manière.
Ben en plus, j'imagine, donc c'est un hachoir donc utilisé par sa mère et donc. Il y a, si tout à l'heure je vous ai parlé de nos mains qui surgissent de nouveau, mais là cet ustensile et sa main, c'est ma même, donc je pense, et c'est pour ça qu'on garde certains outils, certains ustensiles comme une partie de son corps, c'est parce que c'est indirectement, c'est ses mains ont touché, ses mains utilisées, c'était l'extension de ses mains.
Les blés près des silos se sont épanouis à nouveau au Liban, une nouvelle cuisine peut-être qui va se créer. Est-ce que c'est ça aussi le pendant positif de la transmission ?
Je pense que c'est la force à la fois de la cuisine libanaise et les Libanais. C'est le diaspora, c'est les allers-retours, même bien sûr, qui sont faits par la nécessité, avec la souffrance, créer des rencontres, créer une sorte de courant d'air et de telle sorte que la cuisine est préservée peut-être dans un pays lointain. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on peut, malgré le fait que en ce moment, la réalité, en fait, ce qui se passe au Liban est très, très dur, mais que tant que ce soit les Libanais qui vivent et tant que ce soit les Libanais qui vivent en dehors aussi de Liban et qui essayent d'avancer les choses, je pense qu'il y a un espoir parce que ils savent que c'est aussi comme ça dans les voyages, dans les allers-retours d'oiseaux migrateurs qu'ils ont pu réaliser la transmission, la vraie transmission dans le monde entier qu'ils ont réussi à le faire. Donc je pense que je garde l'espoir et pour la cuisine libanaise et pour les Libanais.
Et maintenant, il faut que les hirondelles reviennent au Liban. Voilà. Alors, un ingrédient et un ustensile, on a entendu celui de Florence Kahn, vous nous avez apporté, Ryoko.
Là, cette fois-ci, comme c'était sur la transmission, donc je vous ai apporté une spatule en bois qu'on utilisait surtout pour mélanger le riz qui vient d'être fait. C'est-à-dire que c'est le riz fumant. Et quand on ouvre, soit la marmite ou bien le cuiseur, il y a la vapeur qui monte et il y a la façon de mélanger. Si on ne mélange pas bien, en fait, on écrase les grains de riz et que c'est pas bien. En fait, c'est quelque chose que un enfant apprend pour la première fois, en fait, avant de faire la cuisine. Comment bien mélanger le riz. Et c'est la spatule de ma mère, mais qu'elle utilisait, mais finalement pour tout, pour la sauter des légumes, pour pour tout en fait, tout simplement. Et puis je l'ai confisqué. Enfin, ma mère est toujours vivante, du merci. Je l'ai confisqué. Donc, il est là avec moi dans mon appartement. Et puis, finalement, j'utilise pour tout. Mais c'est tous les jours. Et c'est vrai que quand on pense, c'est un peu un talisman. C'est un peu ma mère. En fait, je pense que je ne pourrais pas faire la cuisine sans cette spatule.
Merci beaucoup, Ryoko Sekiguchi. Merci. 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent et publiés chez Poel. Nagori également, ce n'est pas un hasard. Ou encore, La Terre est une marmite. Ça, c'est une conférence pour les enfants éditée chez Bayard pour évoquer le fait de manger, de faire la cuisine qui font partie des rares actions qui éveillent les cinq sens. Donc, je le conseille très vivement. Quel écho cette émission a-t-elle trouvé chez vous? Quelle place la transmission dans vos vies? Quelle importance? Et comment transmettre
souhaitez-vous, racontez-nous sur les réseaux sociaux ou en nous laissant un message sur le numéro WhatsApp de l'émission 336 43 16 15 66. Cécile Bonici a réalisé et mis en onde ce Goût du Monde. Merci beaucoup à elle. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne semaine à tous. À samedi prochain.
Tout à l'heure sur RFI.